Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sur la couverture, quatre jeunes femmes, dont une qui tient un mégaphone et qui brandit le poing vers le ciel. Et derrière elle, une foule de manifestants devant un palmier. Et sur le côté, un homme chevelu en bermuda et en tongue, un crayon à la main gauche, un carnet à spirale dans l'autre. Cet homme, c'est l'auteur de bande dessinée que nous recevons aujourd'hui. Et ces quatre femmes, ce sont ses héroïnes, des femmes en lutte qu'il a rencontrées lors de ses voyages au Liban, au Brésil et au Bénin, et dont il raconte l'engagement au quotidien, sur le terrain, au service de causes qui les dépassent. À travers la révolution populaire au pays du Cèdre, à travers une communauté en but à un projet immobilier au Brésil, à travers le combat féministe d'une jeune militante dans les écoles béninoises, Fabien Toulmé ouvre une nouvelle fenêtre sur nos contemporains. Son album « Les reflets du monde » en lutte est disponible chez Delcourt dans la collection Ancrage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fabien Toulmé.
Bonjour.
Alors on connaissait votre fameuse odyssée d'Hakim, hein, qui avait remporté un succès certain et qui lui aussi était l'expression du regard que vous portez sur le monde qui nous environne. Est-ce que vous avez jamais pensé un jour être journaliste, être reporter, Fabien Toulmé ?
Finalement, est-ce que je ne suis pas en train de le devenir ?
Eh bien si,
je
voilà,
sais pas trop, je sais
vous
pas
l'êtes,
trop.
Ça y est, il n'y a aucun doute.
Je pense que la différence principale, enfin de ce que j'en ai compris après avoir un petit peu regardé vos confrères travailler, c'est que moi, il y a une histoire de temps, en fait, de temps de partage, de temps de dialogue qui est peut-être un peu différent. Et ce temps qui est beaucoup plus long me fait rentrer dans une relation qui va plus sur l'ordre de l'amitié ou voilà ce genre de relation-là.
Vous avez moins de recul peut-être qu'un journaliste, mais vous avez aussi plus de temps que lui pour entrer dans les histoires. Vous travaillez sur le temps long, quoi. Vous n'avez pas la pression de l'actualité du quotidien.
Ben, c'est-à-dire que si j'ai un sujet de départ en tête, je vais quand même m'autoriser à déborder de ce sujet en passant du temps avec les personnes que je rencontre, en abordant avec elles peut-être des thématiques qui sont hors sujet par rapport à ce que j'ai imaginé au préalable. Donc voilà, ce qui peut faire de moi à la fois un journaliste et en même temps quelqu'un qui ne fait pas tout à fait du journalisme.
Alors justement, la première chose que fait un reporter avant de partir, c'est de choisir sinon son sujet et son angle, parce que c'est vrai que parfois le terrain le rattrape et que ça évolue, du moins la thématique. Et vous avez choisi donc de vous intéresser aux luttes, donc ce qui résonne évidemment avec le titre de l'album En lutte. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là ?
Alors au tout départ, il y a l'idée vraiment d'aller sur le terrain à la rencontre de gens qui vivent des expériences à travers la planète pour justement créer ce rapprochement que j'ai pu opérer avec l'Odyssée d'Hakim et donc opérer des rapprochements avec les personnes que je rencontre. Et donc en fait, c'est un petit peu mon voyage au Liban à un moment qui n'était pas prévu, c'est-à-dire le début de la révolution, la Saoura, la révolution au Liban, qui m'a fait me poser la question du « qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique et est-ce que j'ai envie de raconter ça, mais plutôt que de raconter ça sous un angle analytique et didactique, le raconter sous un angle humain. Et donc, de cette envie initiale de faire du reportage, mon arrivée au Liban à ce moment-là m'oriente vers cette thématique de la lutte et de l'engagement.
Alors, donc, lutte et engagement très différents, effectivement, suivant les trois exemples que vous mettez en exergue, différents et en même temps qui se rapprochent quand même beaucoup. On va y venir dans un instant, mais déjà sur l'idée globale. Les reflets du monde, alors, c'est le surtitre ou c'est le titre d'une série, d'une saga ? Parce que c'est un premier tome, là, en lutte, c'est pas un unitaire.
Alors, c'est un unitaire dans le sens où, à la fin de cette bande dessinée, il n'y a pas une suite narrative qui va arriver, mais c'est une série dans le sens où le concept de cette série, Les Reflets du Monde, c'est aborder sur chaque tome une thématique, quelque chose qui caractérise le monde dans lequel on vit, et plutôt, comme je disais, que de l'aborder sous un angle analytique et didactique, simplement aller à la rencontre de gens qui vivent ces thématiques, et au travers de leur parcours, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on en perçoit quelque chose de beaucoup plus global.
Donc, reflet du monde, donc thématique, il y aura donc un deuxième ou un troisième tome ou un quatrième, vous en savez
tant
rien encore pour l'instant.
J'aurai le goût du voyage et de la rencontre.
Alors, d'où vous vient d'ailleurs justement ce goût du voyage, Fabien Toulmé ?
Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire une analyse sur pourquoi mon goût du voyage. En fait, ce que je me disais, c'est que j'ai grandi dans une banlieue d'une ville moyenne, dans un environnement qui était un peu Ouais, un peu ennuyeux. Donc moi, mes voyages à l'époque, c'était faire de la bande dessinée. Donc c'était vraiment raconter des aventures de bande dessinée, voilà. Et dès que j'ai eu l'âge de commencer des études, j'ai tout de suite eu envie de partir. Et je pense qu'il y a cette idée d'aller vers quelque chose qui serait un ailleurs, avec de la découverte, avec des rencontres. Voilà, je pense que ça commence là, le goût du voyage. Et puis après, plus ça va, plus on a envie d'élargir le périmètre des voyages et des rencontres. Et voilà comment ça a commencé.
Donc, goût du monde, goût de l'ailleurs, goût du déplacement, goût des gens, tout ça en même temps.
Au début, je pensais que c'était un goût de l'ailleurs. Et je pense que vraiment, ce qui est le moteur de tout ça, c'est le goût des gens. En fait, le fait d'aller rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres modes de vie, En fait, quand je rencontre quelqu'un, mais même quelqu'un qui ne serait pas forcément d'une autre culture, j'ai plein de questions à lui poser parce que la personne m'intéresse. Et je pense que cet intérêt, il est décuplé quand viennent s'ajouter d'autres cultures, peut-être d'autres confessions, peut-être d'autres façons de vivre, de manger, de se déplacer. Voilà.
Alors, si on regarde les trois exemples de ce livre, on a un peu l'impression que vous ne partez pas complètement à l'aventure, c'est-à-dire que vous connaissez très précisément quelqu'un à aller voir sur place, vous voyez cette personne-là, et ensuite vous fonctionnez un peu par capillarité, quoi. Ah, toi, tu as un copain, ou toi, tu as une copine, ah, ce serait bien que tu le rencontres, et c'est ainsi de suite, en fait. Il y a un côté gigogne, finalement, dans vos rencontres successives.
Ouais, il y a vraiment cette idée de construction par escalier, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, alors déjà, toute première marche de cet escalier, c'est d'arriver dans un endroit sans avoir prévu qu'il y aurait une révolution.
Oui.
De là naît l'envie de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, de marche en marche, en fait, je vais évoluer vers ces autres luttes. Et de lutte en lutte, en fait, je vais commencer à faire des découvertes, alors que je ne comprends pas comme étant des découvertes parce que je n'ai pas forcément le regard de l'expert. Mais là, j'ai besoin de faire appel à un sociologue qui s'appelle Olivier Filliol et qui est un spécialiste des luttes et de l'engagement et qui, lui, va apporter ce regard extérieur, ce regard expert pour m'expliquer que ce que j'ai peut-être pressenti de façon inconsciente ou ce que j'ai constaté a une explication.
Alors, comment est-ce que vous fonctionnez concrètement sur le terrain, Fabien Toulmé ? Puisque à la fin du livre, il y a des photos. Donc, j'imagine que vous prenez énormément de photos. Vous avez d'ailleurs votre appareil photo autour du cou, à vous le dessiner, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous vous mettez en scène dans l'album. Hein. Vous êtes un des personnages de votre récit. Donc, beaucoup de photos, beaucoup de dessins, beaucoup de croquis. Vous baladez en permanence avec votre appareil, votre carnet, votre crayon, comme celui que vous dessinez sur la couverture ?
En fait, je fais beaucoup plus de photos que de croquis. En fait, quand je suis donc dans ces pays, même si j'ai le sujet en tête, même si je sais à peu près qui je vais aller voir, j'ai l'impression de me retrouver face à une masse d'informations. Mais ce n'est pas simplement d'informations de l'ordre de l'histoire ou narrative, c'est d'informations visuelles, d'informations auditives. Mmh. Et donc, en fait, le croquis, là où ça demande un temps un peu plus long de se poser, moi, je mitraille de photos. Éventuellement, quand je rentre le soir à l'hôtel où là je suis hébergé, je vais commencer à faire des croquis. Mais le gros du travail de tri, de toute cette somme d'informations que j'ai collectées sur le terrain, je vais commencer à la faire à mon retour chez moi en France, où là, en fait, assez naturellement, les choses vont se décanter. C'est-à-dire que des fois, je suis sur place,
ouais. On
me dit des choses, je vois des trucs et je me dis, mais comment je vais réussir à raconter tout ça, à englober toute cette masse d'informations, à l'ordonner. Et des fois, il y a un côté un peu... Je sais pas inquiétant, le mot est un peu fort, mais quelque chose de l'ordre de...
Ouah,
mais
vertigineux.
Vertigineux, voilà. Comment je vais réussir à re-raconter tout ça, à re-raconter les sensations, à re-raconter les informations qu'on m'a délivrées. Et en fait, assez naturellement, le cerveau fonctionne bien parce qu'il fait une espèce de filtre entre ce qui est vraiment de l'ordre du ressenti non nécessaire, du ressenti nécessaire et vraiment du cœur de l'histoire. Et ça, j'arrive à le faire vraiment quand je suis au retour à mon bureau.
Yes Beck dans VMDN sur RFI, la chanson s'appelle Saora, alors vous l'avez beaucoup mieux prononcé que moi, Fabien Toulmé, je vous
pas
écoute.
Sûr, je suis pas sûr, Saora.
Voilà, ça veut dire la révolution hein, en arabe, en traduction littérale, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on a appelé donc, ce soulèvement qui a débuté au Liban le 17 octobre 2019, et vous le disiez d'une façon relativement fortuite, vous êtes retrouvé en plein dedans, sans donc vraiment l'avoir voulu, hein. En fait vous deviez assister au Salon du Livre de Beyrouth, il a été annulé en raison précisément de ces événements. Là, et vous avez décidé d'y aller quand même. Pourquoi ?
Eh bien, je ne sais pas. Si non, non en fait, il y avait vraiment dans cette idée de connaître quelque chose qui paraissait quand même assez incroyable, historique, qui avait vu de loin un aspect de mouvement plein d'énergie et quelque chose d'assez positif. En fait, c'était présenté comme un mouvement pacifique et positif. Et cette dimension historique, en fait, je me suis dit, c'est une chance. Et je m'est revenu en tête un professeur d'histoire géo que j'avais au lycée et qui arrivait à nous passionner en sortant de la grande histoire et en nous racontant des événements qu'il avait, lui, vus sur place quand il allait sur des théâtres d'événements historiques. Je me souviens en particulier qu'il parlait de la chute du mur de Berlin. Et plutôt que de nous parler de blocs de l'Est, blocs de l'Ouest et de concepts très généraux, nous disait « j'étais à tel endroit, à tel café, j'ai vu ça, il y avait quelqu'un qui a pris une barre de fer ». Et en fait, moi qui étais relativement, peu réceptif à l'histoire géo, en fait, le fait qu'ils mettent de l'humain, le fait qu'ils mettent de la situation du quotidien, ça m'absorbait et j'arrivais mieux à comprendre justement ces grands concepts généraux.
Alors, on a tous rêvé d'avoir un prof comme ça. Moi, j'ai eu effectivement la chance aussi d'avoir un prof d'histoire qui lui ressemblait un petit peu à ce monsieur. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle Monsieur Guidou, c'est le nom du personnage dans la bande dessinée, mais c'est un nom que là, pour le coup, vous avez avancé.
C'est un nom que j'ai inventé.
C'est vrai que ça sonne très bien. Voilà l'expression courir le Guidou. Hein, qui donne effectivement cette dimension très, très, très légère à ces récits. Et il amène d'ailleurs lui-même une vraie légèreté dans votre album. Par exemple, puisqu'on parlait du Liban à l'instant, c'est très complexe et compliqué. Hein. C'est les deux adjectifs que l'on retrouve au tout début du chapitre sur le Liban, lorsqu'on s'intéresse à la situation politique au pays du Cèdre. Alors, vous vous lancez dans plusieurs pages d'explications sur le système confessionnel libanais, sur les racines de la colère, et en particulier cette fameuse taxe WhatsApp, sur l'histoire contemporaine du Liban, en particulier la guerre civile. Mettre un peu de légèreté là-dedans, c'est pas évident. Et donc, le personnage de Monsieur Guidou, lui, il arrive là, et en plus, il est souvent sur un petit nuage. Donc, l'idée, c'est ça, quoi. C'est de rendre toutes ces explications-là qui peuvent être rébarbatives et qui sont absolument nécessaires à la compréhension de l'album, c'est de rendre tout ça un peu plus léger, de mettre un petit peu de sourire.
Ouais, en fait, l'idée de cette série, Les Reflets du Monde, c'est de raconter des histoires qui soient un carrefour du reportage, donc avec la somme d'informations que demande le reportage, du carnet de voyage, avec des situations qui soient plus légères, mais qui apportent de l'information d'un point de vue hors champ, en fait. Comment est l'ambiance, comment ça se passe, peut-être qu'est-ce qu'on mange, comment on se déplace. Et puis, effectivement, cet aspect aussi un peu didactique qui est nécessaire pour comprendre justement ce qu'est le reportage. Et là, en l'occurrence, le Liban, pardon, c'est un environnement tellement, tellement complexe, une histoire tellement complexe qu'il faut essayer de la décoder de façon synthétique. On m'a dit en arrivant au Liban, si tu as tout compris sur le Liban, c'est qu'on t'a mal expliqué.
Voilà, c'est qu'en fait, t'as rien compris, effectivement. Voilà, c'est très clair. C'est vrai que ce monsieur Guidou, donc ce personnage vrai et en même temps fictif, vu la façon dont vous l'utilisez, c'est une sorte de Deus ex machina, c'est-à-dire qu'il arrive au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez un peu besoin, justement, d'avoir une explication historique, d'avoir un peu plus de recul et de rendre l'album un peu plus léger, il arrive comme ça. C'est formidable, finalement. C'est un sacré adjuvant. À votre narration, Fabien Toulmé.
En fait, l'idée, c'est que moi, en apparaissant dans l'album, je suis un peu le guide Candide voilà, qui va faire Candide, découvrir... Oui. À la fois le pays et la problématique au lecteur. Et donc, je ne peux pas à la fois me poser en candide et puis en expert du sujet. Donc, c'est le moyen que j'ai trouvé pour ramener cette voie de la connaissance et de la raison sur un mode un peu léger, parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit un livre qui permette de comprendre des choses sans rentrer trop dans le détail, dans quelque chose de trop ardu, quoi.
Alors, il y a pas énormément, mais enfin, il y en a quand même de temps en temps, des schémas, des grandes cases avec des flèches. Et vous avez aussi mis la couleur au service de la pédagogie. D'abord, d'une façon plus générale, Fabien Toulmé, est-ce que vous pensez que la BD est un bon vecteur, un bon outil pédagogique ?
Je pense que autant que d'autres formes d'art ou d'expression, en fait, ça dépend comment on s'en empare, ça dépend comment on l'utilise. Moi, d'une façon générale, quand je lis ou quand je fais de la bande dessinée, j'aime bien terminer ma bande dessinée en me disant qu'il me reste quelque chose. Ça peut être de l'émotion, comme j'ai pu le faire sur d'autres albums, ça peut être de la connaissance. Donc, si je suis sur ce registre de l'apprentissage ou de la connaissance, c'est important qu'il y ait cet aspect pédagogique, sans que ça soit trop didactique, trop explicatif, parce que ça en deviendrait un peu lourd.
Oui.
Mais l'idée, effectivement, c'est d'arriver à faire passer des informations. Et dans ce cas-là, ouais, la bande dessinée, ça permet d'illustrer des propos, peut-être de recréer des situations dans lesquelles on explique des concepts, mais sous une forme vivante. Donc oui, je pense que la bande dessinée, c'est un bon outil.
Voilà, et donc au service de cette compréhension-là, vous mettez aussi la couleur. Par exemple, il y a donc le récit principal qui est dans une certaine couleur. Et puis les retours en arrière, eux, sont teintés d'une couleur différente. Quoi. Les retours en arrière, les éléments de contexte aussi. La couleur, en fait, c'est ce qui marque la temporalité.
Il y a un truc qui me guide beaucoup dans la façon dont je fais la bande dessinée, c'est la clarté de ce que je vais expliquer. Plus on va vers des concepts compliqués, plus il faut essayer de les rendre compréhensibles. Mmh. Et quand on fait, comme je le fais dans la bande dessinée, des allers-retours entre le présent et le passé, au lieu de dire à chaque fois « et 500 ans en arrière » ou « et 10 ans en avant », je me suis dit que le code couleur était une bonne façon assez... naturel et intuitif de se dire « Ok, là, je suis dans le temps présent et là, je reviens quelques temps en arrière. »
Voilà. Et puis, parfois, il y a des récits dans le récit. Par exemple, puisqu'on évoque le Liban, il y a ce photographe motocycliste que vous rencontrez, qui s'est retrouvé pris à partie pendant une manifestation par les jeunes d'une milice. Là aussi, vous traitez ce récit-là avec une couleur, avec une teinte particulière. On est là vraiment dans une sorte d'histoire dans l'histoire, quoi. C'est un passage qui est plus scénarisé que les autres ?
Non, c'est un passage qui est de l'ordre également de la retranscription de témoignages. En fait, cette deuxième partie de ce premier reportage sur la Révolution, l'idée, c'était de déconstruire aussi l'image qu'on pouvait en avoir, comme beaucoup de choses, en fait. Quand on est dans un autre pays et qu'on lit des informations, qu'on entend des choses, on se représente de façon peut-être un peu schématique les événements. Et en fait, ce qui m'intéressait dans ces deux visions, à la fois la vision de Nidal qui prenait part aux manifestations en tant que Libanaise et de Thierry qui était photographe, c'est qu'on avait à la fois la vision subjective de la personne qui est concernée et qui donc peut m'expliquer les fondements de cette manifestation. Et d'un autre côté, Thierry qui m'apportait cette vision très journalistique et peut-être une espèce de contre-champ par rapport à la vision qu'on en avait. Et en particulier, il me racontait que loin de la place des martyrs et de cette espèce, alors je mets beaucoup de guillemets, de cette espèce de folklore qui était présenté de cette révolution très colorée, très jeune, très dynamique, il y avait aussi dans les quartiers des affrontements beaucoup plus violents, avec des morts, avec des blessés. Et donc, ça me paraissait important aussi d'apporter cet élément beaucoup plus... pas beaucoup plus vrai, mais qui
avec une focale différente.
Avec une focale différente, voilà.
Est-ce que vous vous êtes donné des contraintes de pagination ?
Alors, au début, non.
Parce qu'on ne peut pas être exhaustif sur un événement pareil comme une,
alors, sur le,
comme une
sur...
révolution en devenir.
Oui, en fait, l'idée, ce n'était pas du tout d'être exhaustif. Sinon, j'aurais fait une encyclopédie en plusieurs tomes, voilà, sur à la fois le Liban, puis la Saoura, puis le concept de lutte et d'engagement. Et là, j'en revenais au concept de base de la série, c'est-à-dire je vais parler d'une thématique. Je ne vais pas défricher toute la thématique, mais simplement en l'abordant par trois angles et trois personnages et trois pays différents, je pense qu'on aura balayé une bonne partie du spectre. Et après, laissons... L'intelligence du lecteur et la possibilité d'aller chercher par soi-même ailleurs en ayant déjà ces premiers concepts, ces premières idées. Et c'est comme je le dis à la fin de la bande dessinée, ce sont simplement des fenêtres que j'ouvre sur un horizon très très large. Et effectivement, dans chaque fenêtre, on voit le pan du paysage qui apparaît dans la fenêtre, qu'on ne peut pas voir tout le paysage.
Alors, vous n'avez pas répondu, mais c'est ma faute, je vous ai coupé. Donc, au départ, pas de contrainte de pagination, et vous commencez à me répondre, et ensuite, finalement, un petit peu quand même.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est quand même tenu par des délais.
Oui.
On en revient aussi un peu à la question du budget et tout simplement de l'objet physique qui ne doit pas dépasser un certain nombre de pages. Donc, je m'étais fixé 3 reportages avec des intermèdes où je fais un petit dézoom ou décryptage avec un sociologue.
Voilà.
L'idée, c'était de rester quand même assez lisible et qu'on passe un bon moment, quoi. Donc je me suis fixé sur le premier reportage au Liban. C'est là où j'ai été un peu plus long parce que je me laissais un peu porter par les événements qui étaient plus conséquents que dans les autres reportages. Et après, voyant le livre prendre forme, je me suis dit, essayons de nous contraindre à une pagination maximum par reportage pour pas dépasser les 350 pages.
Ogbo, Angélique Kidjo et Ibrahim Maalouf dans VMDN sur RFI, extrait de leur nouvel album Queen of Sheba. VMDN avec l'auteur de bande dessinée Fabien Toulmé qui publie Les Reflets du Monde en lutte aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Et le personnage que l'on voit sans doute le plus dans vos pages, c'est vous, Fabien Toulmé, avec vos lunettes carrées, vos cheveux longs. Vous avez un petit peu raccourci là quand même, un petit peu visiblement.
Ouais.
Hein. Et votre barbe. Est-ce que quand on se met en scène soi-même, on devient un personnage comme les autres ?
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour me rendre compte de l'effet que fait le fait de se dessiner, d'apparaître. Moi, je le vois vraiment... En fait, c'est bizarre parce que en fait, je ne le vois plus vraiment comme moi. Je le vois comme un vecteur, en fait. Je le vois comme le vecteur entre le lecteur et mes rencontres. Et En fait, j'ai plus l'impression de me dessiner, quoi. J'ai l'impression de dessiner un personnage qui serait un peu ma mascotte. Voilà.
Mais il était indispensable de vous mettre en scène réellement vous, quoi. Vous pouvez pas choisir, inventer un autre personnage qui serait une sorte de double, en quelque sorte, de bande dessinée. C'est important que ce soit vous-même.
Alors, je me suis pas forcément posé la question. En fait, c'est venu assez naturellement, puisque l'idée de cette série étant d'être une espèce de croisement entre du carnet de voyage, du reportage et un aspect plus analytique, didactique. Le côté carnet de voyage, en fait, naturellement, me faisait me mettre en scène. Voilà, je pense qu'il y a aussi dans l'idée du reportage et dans ce que je vis, quelque chose qui serait de l'ordre de l'authenticité par rapport à... Parce que je parle d'émotions, en fait. Je parle pas simplement de choses factuelles. Je parle de quel est mon ressenti quand j'entends Nidal me parler de son engagement et des risques qu'elle prend. Je parle de qu'est-ce que c'est de risquer de se faire expulser quand ça fait depuis toujours qu'on habite dans un endroit. Et pour faire passer ces émotions, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le réceptacle de ça. Et en fait, c'est moi le réceptacle. Donc ça serait peut-être un peu plus complexe de faire qu'un autre personnage reçoive les émotions que moi je reçoive et que je les retranscris. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de plus naturel.
Alors, parmi les personnages donc, sur la couverture de l'album avec vous, il y a quatre personnages en fait, qui correspondent à chacun de vos trois voyages, au Liban, au Brésil et au Bénin. Donc, il y a Nidal, qu'on évoquait il y a un instant au Liban. Il y a Chanceline au Bénin, qu'on entendra dans un instant. Et il y a aussi Rosana et Odassi, qui sont donc ces deux femmes brésiliennes. Quatre femmes, c'est pas un hasard, pourrait-on dire. Et pourtant, enfin, hasard ou coïncidence, pour le coup, Fabien Touloué. Parce que on a l'impression, en vous lisant, que vous en étiez pas rendu compte et que finalement, c'est une réalité qui vous a rattrapé comme ça en cours de route.
Eh bien, je m'en suis rendu compte à la fin de mon reportage au Brésil. En fait, pour la petite histoire, j'arrive au Brésil avec l'idée de poursuivre cette exploration de la lutte et de l'engagement. Et quand j'arrive au Brésil, j'entends parler de cette favela qui s'appelle le Porto do Capim, qui est à João Pessoa, dans le nord-est du Brésil, et qui est menacée de démolition. Et donc, je cherche à rentrer en contact avec des gens qui défendent la survie de la favela. Et en fait, les gens que je rencontre sont uniquement des femmes. Et donc je me dis que peut-être au moment où j'arrive, bah, les hommes sont ailleurs et vont arriver plus tard. Et en fait, non, on me dit que dans cette association de résistance contre la mairie, il n'y a que des femmes. Donc ça commence à me poser question. Nidal au Liban et ce groupe de femmes dans la favela. Et en fait, en revenant de mon reportage, je commence à chercher un troisième sujet. Et là, systématiquement, en fait, je tombe sur des sujets de lutte ou de résistance dont les porte-drapeaux ou les personnes qui sont impliquées sont des femmes. Sont à Fukushima les mères qui essaient de faire reconnaître la dangerosité de la catastrophe auprès de l'État pour leurs enfants. Ce sont au Mexique des mères et leurs enfants qui luttent contre l'implantation d'une usine porcine qui veut pomper l'eau dans les cénotes. Et ça me pose question. En fait, je me demande si c'est un biais dans mes recherches, si ça correspond peut-être à l'époque. Les femmes sont plus mises en avant là où avant elles étaient invisibilisées. Et c'est là que le fait d'avoir Olivier Filiuel comme expert
sociologue, chercheur CNRS, professeur à l'université de Lausanne en Suisse. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi lui d'ailleurs? Parce que des sociologues du politique, il y en a quand même beaucoup.
Eh bien parce que je me suis dit, pour parler d'un domaine que je ne connais pas du tout, il faut que je lise un livre. Et donc j'ai acheté un livre qui s'appelait, j'ai plus le titre en tête, mais quelque chose genre le dictionnaire de la lutte et de l'engagement. Les concepts étaient assez complexes, oui. C'est-à-dire que c'est des phrases qui pouvaient parfois faire une demi-page, et je me suis dit, plutôt que de lire, je l'ai lu quand même,
oui.
j'ai pas tout saisi, et je me suis dit, c'est pas mal peut-être de parler avec ouais. l'auteur, qui m'a l'air d'avoir bien compris les concepts qu'il explique.
Et donc il est à Lausanne, donc en visio forcément, c'est pas uniquement dû à la Covid-19 la visio, hein, c'est...
Non, en fait, je voyage exclusivement dans les pays chauds. Et donc, je me suis dit, Lausanne, c'est un peu trop froid, on va privilégier le visio. Et lui m'a apporté, du coup, son explication sur le pourquoi de la présence de ces femmes et pourquoi, dans mes recherches, je trouvais des luttes qui étaient menées par des femmes.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Quero apenas vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Vous l'avez reconnu dès la première note, cette chanson, Fabien Toulmé.
Oui, Roberto Carlos, que je cite dans le deuxième reportage sur la survie de cette favela au Brésil, puisqu'en fait, c'est devenu l'hymne de des femmes qui luttent pour la survie de la favela.
Voilà, Roberto Carlos, dont vous comparez la popularité à celle de Johnny Hallyday. Donc c'est une chanson que chante dans l'une des scènes, effectivement, Odaci, une des Brésiliennes que vous avez rencontrées dans cette ville de João Pessoa. Voilà, qui se trouve dans l'état de Paraíba. Donc on est à la pointe orientale du Brésil. C'est une ville que vous aviez déjà, que vous connaissiez déjà, je crois.
C'est une ville où j'ai fait mes études à l'époque ancienne où j'étais ingénieur et où j'ai vécu plusieurs années. Et où je retourne quasiment tous les étés, j'y vais bientôt.
Mais vous n'étiez jamais rentré dans ce quartier donc où vit la communauté de Porto do Capim. Faut dire qu'à l'extérieur, la réputation n'est pas la meilleure.
En fait, c'est une ce qu'on appelle communauté. Donc, le mot favela est un peu connoté négativement. Oui. Donc, les gens l'appellent plus aisément communauté, qui se trouve en plein centre-ville, sauf qu'elle est séparée géographiquement par une voie ferrée.
La frontière. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein.
C'est vraiment la frontière. En fait, oui. C'est une frontière qui se franchit très peu dans les deux sens. C'est-à-dire, à la fois, les gens de l'extérieur ne vont pas dans la communauté parce qu'il y a toute cette un peu mythologie qui va avec la favela, c'est-à-dire endroits dangereux, drogue, etc. Et les gens de l'intérieur vont très peu à l'extérieur parce qu'ils savent qu'ils sont identifiés comme étant des gens de la favela. Et donc l'idée de ce reportage, c'était vraiment à la fois de parler de cette lutte, mais aussi de parler de ce qu'est la gentrification et surtout de parler de ces frontières qui peuvent exister entre les quartiers et de montrer que parfois, et même souvent, quand on va à la rencontre des gens, ça déconstruit toute une série de
choses. Les préjugés
tombent
d'un coup. Hein. C'est extraordinaire. Il y a un contraste incroyable entre ce que nous, lecteurs, on peut imaginer par rapport aux mots qui, dans votre récit, précèdent l'entrée du personnage que vous êtes dans la favela et ce que vous y trouvez. Il y a un contraste incroyable.
En arrivant à la favela, j'avais donné rendez-vous par téléphone avec l'une des femmes qui lutte pour le Porto do Capim. Et en arrivant, en fait, comme dans la favela, il n'y a pas d'adresse avec des numéros, on m'avait donné un rendez-vous dans un salon de coiffure, sauf qu'il était introuvable. Et je ne voulais pas rentrer dans la favela avant d'être sûr de savoir où était le salon de coiffure. Et il se trouve qu'il y a un facteur qui passe à ce moment-là, donc qui était du côté centre-ville de la voie ferrée, à qui je demande « Est-ce que vous savez où se trouve ce salon de coiffure ?» Et il me dit, je sais pas. Et je lui demande si c'est. Je lui explique que c'est dans la favela. Il me dit, mais vous n'allez pas aller dans la favela tout seul. Vous allez vous faire attaquer, vous allez vous faire détrousser. Et il s'en va. Et moi, je me dis, j'avais pas de réseau téléphonique. Et je me dis, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit, si on m'a fait venir là, si on m'a donné rendez-vous dans cet endroit, c'est que probablement je crains rien. Et effectivement, j'y suis rentré et j'ai découvert une espèce d'oasis de verdure au milieu de la ville.
Voilà, et on vous a vraiment accueilli à bras ouverts et on vous a expliqué pourquoi donc, ces femmes s'opposaient au projet de parc écologique. Alors, je suis obligé de mettre des guillemets hein, en termes de parc écologique, et on comprend très très bien effectivement pourquoi elles s'y opposent. Alors on a évoqué Rosana et Odassi, les brésiliennes, Nidal la libanaise. La dernière femme que vous dessinez sur la couverture de l'album, Fabien Toulmé, elle est béninoise, elle s'appelle Chanceline, et il se trouve que Charlie Dupuis l'a rencontrée et que le podcast qu'elle lui a consacré a été publié il y a 2 semaines à peine sur le site de RFI. En voici un extrait.
On apprend aux filles à dire oui sans jamais poser de questions. On les initie au rite du silence, sans jamais brancher ni hausser le ton. Le seul droit que tu as, c'est de la fermer et obéir. C'est ça une bonne fille.
Ce texte de Slam, Chanceline l'a écrit pour aborder la question du consentement. Dans cette poésie scandée, elle dénonce. Pour elle, les filles au Bénin sont conditionnées à ne pas oser dire non à des relations sexuelles. Et on ne pose jamais la question de leur désir. Chanceline est slameuse, mais elle est surtout activiste pour les droits des filles et la santé sexuelle au Bénin.
Je crée des espaces pour que les filles puissent en parler. Je crée des espaces pour donner ces informations. Et c'est comme une nouvelle chance de donner aux filles. C'est comme créer de nouvelles possibilités. On veut réellement briser le tabou et porter nos voix.
Elle fait cela bénévolement. Et ce dimanche matin, elle anime une séance autour des grossesses précoces dans un collège d'Avrancou, juste au nord de Porto Novo, la capitale du Bénin. Avrancou, il se trouve que c'est aussi sa ville d'origine, donc là où elle a grandi et où vit encore sa mère. Chanceline organise régulièrement des séances mixtes avec des filles et des garçons. Mais aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs la plupart du temps, elle va s'exprimer devant un groupe de filles uniquement. Elles sont 28, âgées en moyenne de 14 à 16 ans, toutes réunies dans une salle de classe alors que le collège est vide en ce dimanche matin. La moitié de ces adolescentes connaissent déjà Chanceline et la voient comme leur grande sœur. Chanceline est sur le pas de la porte, elle s'apprête à entrer dans la salle.
Bonjour la fille. Ah, pourquoi vous répondez timidement? Comment vous allez?
Ça va bien.
Ça va?
J'ai
l'impression que c'est un peu triste où tout le monde. C'est peut-être à cause de la fraîcheur du matin. Donc, on va se lever et se chauffer ensemble, comme on a l'habitude d'animer. Donc, on va commencer par frotter les mains, comme ça. Et vous faites ça avec beaucoup d'énergie. Hein. Tout le monde fait ça. Si quelqu'un n'a pas chaud dans la paume des mains, ça veut dire que la personne ne fait pas ça très bien. Donc, on frotte. C'est chaud?
Oui.
C'est chaud?
Oui.
OK. Encore plus fort. OK. On a remarqué que dans la commune, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de grossesse précoce dans vos écoles? Oui?
Un extrait de Carnet de santé, hein, le podcast de Charlie Dupuis, à retrouver en ligne avec RFI. Et cette scène de dialogue entre Chanceline et les filles dans cette école d'Avrancou, eh bien, on la retrouve à quelques différences près dans votre album. Fabien Toulmé, on sent que vous avez été très, très impressionné par le travail de terrain de Chanceline, très étonné aussi et parfois même effaré par les réponses de certaines jeunes quand il s'agit de parler sexualité.
J'ai pas été effaré parce que ça supposerait qu'il y ait une espèce de position un peu de jugement. Or, j'étais vraiment dans l'idée de la découverte et de comprendre comment ça fonctionne, que pensent les jeunes dans les milieux ruraux au Bénin. Donc, il y avait pas, voilà, c'était pas de l'effarement. C'était, au contraire, j'étais plutôt impressionné de la liberté de ton de Chanceline, de l'échange qui pouvait s'installer, de la justesse et de l'honnêteté des réponses. C'est-à-dire qu'ils sont très spontanés, très purs et très honnêtes dans leurs réponses, là où peut-être, c'est pas... Enfin, ce que Chanceline m'avait expliqué, c'est qu'au Bénin, il y a quand même un grand tabou sur les questions du corps, du consentement, de la sexualité. Et de voir des très jeunes, il y avait un jeune de 8 ans, si je me souviens bien, dans cette classe, et de les voir parler de façon aussi naturelle de sexualité... J'étais plutôt impressionné en fait par la qualité d'écoute de Chanceline et la qualité de l'échange qu'elle arrivait à instaurer avec les jeunes.
Alors vous racontez aussi le parcours plus personnel, voire même intime de Chanceline, notamment l'éducation qu'elle a reçue de son père. On ne va pas tout raconter, mais c'est une histoire assez douloureuse et on est d'autant plus impressionné en fait par sa capacité de résilience qu'elle a réussi à manifester, notamment à travers le théâtre et à travers le slam, quoi.
Ouais, il y avait l'idée dans le cheminement des reportages de zoomer pour partir d'un pays, puis un quartier à un individu. En fait, ce qui me donnait l'envie aussi de parler de lutte et de militantisme, c'était de comprendre ce qui, dans le parcours d'une personne, peut amener à la lutte et au militantisme, parce que moi, qui ne le suis pas du tout, j'ai toujours cette vision d'une espèce de lutte pour un bien commun. Là où on va mettre entre parenthèses peut-être des choses de sa vie, ses études, son travail, sa famille, pour un bien commun, je me suis dit, ça serait intéressant, et Olivier Filleul, le sociologue, m'y a encouragé, de m'intéresser à ce qu'on appelle la biographie du militant, c'est-à-dire comprendre d'où il vient et qu'est-ce qui a pu dans sa vie faire que le côté engagement est apparu. Et pour Chanceline, c'était vraiment ça l'idée de ce dernier reportage, c'était plutôt que de m'intéresser à une thématique dans sa globalité, de m'intéresser vraiment à Chanceline et à son parcours, pour qu'au-delà, bien sûr, il y a l'histoire de la sensibilisation des grossesses précoces avec les jeunes, on arrive à comprendre voilà, quels sont les mécanismes qui amènent quelqu'un à s'engager.
Voilà, alors vous n'êtes pas engagé vous-même, vous le disiez, Fabien Toulmé, pourtant, en exact du livre, vous avez choisi une citation du Mahatma Gandhi, « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est une sacrée incitation à la lutte, ça.
C'est une incitation à la lutte que, du coup, je m'implique à moi-même. Non, mais il y a effectivement, souvent, et moi, je m'inclus dans le souvent, on a tendance à peut-être râler pour des choses qui ne fonctionnent pas, en se disant que va bien y avoir une espèce de mouvement général qui va se créer, qui va faire que les choses naturellement vont changer. Or, si à aucun moment on s'implique, y a assez peu de chances que ça change.
Merci. Merci beaucoup, Fabien Toulmé, d'être passé nous voir. Les Reflets du Monde en lutte, disponible aux éditions Delcourt.
Si j'ai bien compté, ça fait 40 jours que j'ai pris ma voiture pour aller faire un tour. À peine avais-je laissé ma place le long du trottoir que 12 hommes en colère se bagarraient pour la voir. Les plus gros avions se posent quelque part. Les trains les plus longs s'arrêtent dans une gare. Mais moi je suis condamné à rouler sans m'arrêter. Je ne trouve pas une place pour me garer. J'ai besoin d'un bain et ma barbe à pousser. Les chiens aboient quand ils me voient passer. Quand j'arrive devant chez moi, je ralentis l'allure. Ma mère par la portière me jette un peu de nourriture. Les plus gros avions se posent quelque part. Les trains les plus longs s'arrêtent dans une gare. Mais moi je suis condamné. Par la radio que ce n'était plus la peine de venir au bureau. Et ma fiancée me quitte pour un autre garçon qui a trouvé une place juste devant sa maison. Les plus gros avions se posent quelque part. Les trains les plus longs s'arrêtent dans une gare. Mais moi je suis
Robert Kogwa, pas une place pour me garer, chanson de 1966 et qui n'a pas pris une ride si on pense à la circulation parisienne. Pour les 100 ans de Jacques Martin, dessinateur et scénariste de la série de BD Le Franc, la ville de Molsheim dans l'est de la France revient à travers deux expositions sur l'un de ses dadas, l'automobile justement. Car entre lui et les voitures, l'histoire d'amour est aussi belle et cabossée que les routes alsaciennes qui l'ont vu naître. Reportage pour VMDN, signé Amélie Beaucourt.
Lorsqu'il entre au journal Tintin en 1948, les seuls chevaux qu'il dessine sont ceux sur lesquels Alix, personnage de l'Antiquité romaine, parcourt le monde. On est loin, très loin du galop de ses futures voitures de course. Selon Xavier Schimitz, journaliste automobile, c'est précisément de cette frustration qu'est né, 4 ans plus tard, Le Franc, son deuxième personnage phare. Et dans ses planches, les voitures sont reines.
Vous regardez bien une image, vous regardez les voitures, vous savez dans quel pays vous êtes et à quelle époque. Ensuite, l'automobile, elle caractérise les personnages. C'est pas un hasard, Le Franc a tel type de voiture. son ennemi Borg a des voitures tout à fait différentes. C'est un esthète très luxueux. Et enfin, en dernier point, elle donne une atmosphère à l'album. Il y a, quand vous avez le début de l'album Apocalypse, qui est un des plus importants, c'est Mercedes, ça commence comme ça, conduite par des chauffeurs mutiques qui ne disent pas un mot. Elles se suivent en rang serré sur l'autoroute pendant des kilomètres dans un décor de neige. Le propos va être grave. Et ça, d'entrée, l'automobile lui permet de donner la couleur de l'album.
Quelques pages plus loin, toujours dans le journal Tintin, c'est pourtant bien Jacques Martin lui-même qui conduit la chronique automobile. Une demi-page dans laquelle il vulgarise la mécanique, une transmission aux plus jeunes de sa passion d'ingénieur et de collectionneur.
Il avait des goûts très éclectiques, donc il changeait beaucoup, beaucoup de voitures. Il avait un garage chez lui, il aime beaucoup faire la mécanique. Il n'avait pas non plus des moyens colossaux, donc ses goûts automobiles l'amenaient vers des voitures assez proches du public, un peu sportives, un peu légères, comme l'Alfa Giulietta qui devient la voiture de Lefranc et qui est la première Alfa Romeo à prix abordable. Alfa Romeo était avant-guerre une marque de grand luxe. Et après, il varie, c'est les petites voitures anglaises. Des Spider anglais, un Range Rover évidemment. Il débute par l'Italie, il termine par l'Angleterre.
Des goûts très éclectiques, oui, mais très excentriques aussi, selon son fils, Bruno Martin, qui garde un assez mauvais souvenir des lubies de son père.
Il avait été chez Citroën et il avait acheté une DS. Et il dit, j'ai vraiment fait une affaire, ils m'ont fait un prix extraordinaire. Et la DS était dorée. Pas jaune, mais dorée, mais vraiment dorée, comme dorée à la feuille. Quand on passait dans le quartier, tous les gens regardaient cette voiture en riant. Et ma sœur et moi, on s'enfonçait le plus profondément possible dans les fauteuils de cette déesse pour pas que les copains ou les mères des copains nous voient, tellement on était gênés dans cette voiture. Lui, il était excentrique. Et voilà, ça lui a beaucoup plu, cette déesse, qui était de fait très jolie, mais extrêmement très voyante. Et quand on a 12-13 ans, d'être dans une voiture comme ça, c'était vraiment pas cool, quoi.
Mais c'est surtout de ces sorties de route que son fils se souvient.
Il avait le chic pour acheter tous les mauvais modèles de toutes les marques. Il disait, on n'arrivera jamais, le radiateur chauffe, on a perdu une courroie, la durite, les freins lâches, etc. Donc on n'a jamais connu un voyage serein en automobile, on était toujours en panne. On a découvert la botanique des talus, de talus des routes de campagne. Mais sa voiture, vraiment, je ne sais pas comment il choisissait, mais c'était toujours des modèles extrêmement peu fiables, en tout cas.
Une malchance qui échappera heureusement au nouveau dessinateur, Ray Gric. C'est lui qui pilote aujourd'hui la série Lefranc, mais contrairement à son prédécesseur, il est loin d'être un fou du volant.
Je ne conduis pas de voiture, ça n'achète pas le permis. C'est ma femme qui conduit pour moi. Mais par contre, j'adore les mettre en scène, ça oui. J'adore les faire rouler, leur faire subir un tas d'aventures, de dérapages. Il faut pas rire, c'est normal. C'est un peu le paradoxe de l'affaire, quoi.
Alors que Lefranc souffle cette année ses 70 bougies et Jacques Martin 30 de plus que lui, la ville de Molsheim, en Alsace, berceau du dessinateur, mais aussi, coïncidence, des célèbres Bugatti, propose deux expositions cet été autour de l'auteur et de son amour pour les moteurs.
Reportage d'Amélie Beaucourt, une pause et toute l'info sur RFI. Demain, on prend la direction de l'Asie pour découvrir la cuisine de la route de la soie avec le chef Akram Benalal et le journaliste Philippe Toinard. Et vous m'en direz des nouvelles. Demain.